Maintenant que nous avons étudié les principaux cycles moteurs, venons-en au cycle récepteur. Dans un cycle moteur, on apporte de la chaleur afin de produire de l'énergie mécanique. Dans un cycle récepteur, on opère en sens inverse. On apporte de l'énergie mécanique et on s'en sert pour remonter le niveau thermique d'une quantité de chaleur. Deux types de cycles récepteurs sont communément utilisés, les cycles de réfrigération et les cycles de pompe à chaleur. Ils diffèrent simplement par les niveaux de température de fonctionnement et par l'effet recherché. Dans les cycles de réfrigération, on cherche à refroidir une enceinte, tandis qu'une pompe à chaleur est utilisée pour le chauffage. Nous avons vu dans le MOOC « Modéliser et simuler » que l'énergie utile d'un cycle de réfrigération est la chaleur extraite à l'évaporateur et l'énergie payante, le travail fourni au compresseur. Le rapport des deux étant généralement supérieur à 1, le terme de rendement n'est plus adapté et c'est pourquoi on parle de coefficient de performance ou COP du cycle. Bien que la problématique d'optimisation des cycles récepteurs soit très différente de celle des cycles moteurs, on cherche dans les deux cas à minimiser les irréversibilités de telle sorte que les démarches se rejoignent. Considérons un cycle de réfrigération destiné à refroidir à la température de moins 10 degrés Celsius une enceinte froide placée dans une pièce à 20 degrés Celsius. T2 égale moins 10 degrés Celsius égale 263,15 Kelvin. T1 moins T2 égale 30 degrés. Le COP est égal à 263,15 sur 30 égale 8,8. Le COP froid inverse de Carnot est de 8,8. En pratique, le fluide thermodynamique évolue entre des températures T1 égale 75 degrés et T2 égale moins 20 degrés Celsius environ, ce qui correspond à un COP égal à 253,15 sur 95 égale 3,7, largement inférieur à la valeur théorique de 8,8. Pour améliorer les cycles récepteurs, on est ainsi conduit aussi, d'une part, à minimiser les irréversibilités provenant des hétérogénéités de température tant vers l'extérieur du système qu'en interne, et d'autre part, à fractionner les compressions. Commençons par étudier les échanges de chaleur de la machine de réfrigération avec les sources de chaleur auxquelles elle est connectée. Le cycle de référence que nous considérerons est donné dans ce synoptique. Les pressions d'évaporation et de condensation sont de 2 et 7,5 bars. Son COP vaut 4,48. Considérons la représentation graphique des échangeurs de ce cycle simple, sans surchauffe ni sous-refroidissement, dans le diagramme T delta H, où l'on porte en ordonnée la température et en abscisse les enthalpies mises en jeu. Les flèches indiquent le sens de variation des températures. La courbe bleue supérieure représente le refroidissement du frigorigène avec la désurchauffe suivie de la condensation. La courbe rouge située en dessous correspond à l'échauffement de l'air dans l'échangeur. La courbe violette en bas représente la température de l'enceinte froide supposée isotherme à moins 4 degrés Celsius et la courbe verte, l'évaporation du frigorigène, elle aussi isotherme à moins 10 degrés Celsius. On voit clairement que les écarts de température sont minimaux dans l'évaporateur et que dans le condenseur, ils dépendent surtout du niveau de la surchauffe atteinte en sortie de compresseur. En dehors de limiter la température de fin de compression, il est difficile de réduire ces écarts. Une modification de l'architecture du cycle n'aura que peu d'influence sur ces irréversibilités par hétérogénéité de température. Toutefois, si l'on a recours à la surchauffe préventive à l'entrée du compresseur, destinée à éviter que le compresseur n'aspire du liquide, et au sous-refroidissement permettant d'augmenter l'effet utile, la situation se détériore un petit peu, comme le montre cette figure. En sortie de condenseur et d'évaporateur, les écarts de température diminuent et peuvent devenir insuffisants. Pour réaliser la surchauffe, on se contente généralement de surdimensionner légèrement l'évaporateur ou de laisser non isolé une certaine longueur de tube en sortie d'évaporateur. Pour le sous-refroidissement, grâce auquel l'amélioration des performances est obtenue, tout dépend de la température de la source chaude avec laquelle la partie du cycle à haute pression échange de la chaleur. Si sa température est suffisamment basse pour que le surfroidissement puisse être réalisé, il suffit de surdimensionner légèrement le condenseur. Si elle est trop élevée, deux possibilités existent pour sous-refroidir le fluide. Soit par échange avec une autre source extérieure, s'il en existe une, soit par échange avec le fluide en sortie d'évaporateur, en réalisant un échange interne, assurant à la fois le surfroidissement et la surchauffe. Une amélioration du cycle consiste alors à insérer un échangeur supplémentaire pour assurer cet échange interne, comme le montre ce synoptique. Analysons maintenant les autres améliorations possibles du cycle de réfrigération. Les expressions du cycle de Carnot inverse montrent que la valeur du COP se détériore lorsque l'écart de température T1-T2 augmente. Il est clair que la valeur du COP froid est d'autant plus grande que l'écart T1-T2 est faible. Lorsque cet écart augmente, le rapport de compression croît en conséquence, ce qui a pour effet de faire chuter le rendement isentropique et faire croître la température de sortie du compresseur jusqu'à des valeurs très élevées, avec risque de décomposition de l'huile. Nous savons qu'un fractionnement de la compression avec refroidissement intermédiaire permet de réduire le travail de compression. Cette complication du cycle se justifie lorsque l'écart de température T1-T2 augmente. En pratique, dès que le taux de compression dépasse 6, le cycle monoétagé atteint ses limites et doit être remplacé par des cycles multiétagés. Dans la plupart des cas, les installations frigorifiques sont biétagées. Nous avons montré que, dès lors qu'il est nécessaire de fractionner une compression, il peut être intéressant de refroidir le fluide entre deux étages. Lorsque le cycle frigorifique doit opérer avec un rapport de compression élevé, une variante du cycle de base consiste précisément à faire cela. Le refroidissement peut être assuré par la source de chaleur externe du condenseur ou bien une autre source plus froide s'il en existe une. Considérons le cycle précédent, c'est-à-dire avec sous-refroidissement de 10 degrés Celsius et surchauffe de 5 degrés, et travaillant cette fois entre 1 et 12 bars. Son COP est égal à 2, la production frigorifique étant de 135,6 watts et la puissance de compression de 66,5 watts. La superposition dans le diagramme des frigoristes de ce cycle et de celui de référence tracé en bleu conduit à cette figure qui fait bien apparaître l'augmentation du travail de compression et la réduction de l'effet frigorifique. Examinons ce qu'il est possible de faire en fractionnant la compression. Le rapport de compression monoétagé étant égal à 12, la pression intermédiaire peut être choisie en première approximation égale à 3,5 bars. En conservant un rendement isentropique égal à 0,8, la température de fin de compression est égale à 23,6 degrés Celsius, c'est-à-dire inférieure à celle de l'air de refroidissement du condenseur, supposé être à 25 degrés Celsius. Avec un refroidissement intermédiaire de 24 degrés à 10 degrés, le COP est légèrement amélioré et passe à 2,1. Le gain reste faible et ce cycle ne fonctionne pas sans source froide complémentaire. Pour pouvoir, d'une part, assurer en interne le refroidissement des vapeurs sortant du compresseur basse pression et d'autre part, augmenter le palier de vaporisation, il est intéressant de fractionner aussi la détente. Le cycle le plus simple et le plus performant est appelé cycle à injection totale. Dans ce cycle, les vapeurs sortant du compresseur BP et le fluide diphasique sortant du détendeur HP sont mélangés dans une bouteille intermédiaire qui agit comme une capacité et un séparateur, la phase vapeur étant aspirée par le compresseur HP, tandis que la phase liquide traverse le détendeur BP. Il en résulte une amélioration notable du cycle frigorifique, dont le COP atteint la valeur de 2,34, soit 17% de mieux que le cycle monoétagé. La production frigorifique est de 180 watts pour une puissance de compression de 76,8 watts. Cette dernière est plus importante que dans le cycle de base du fait de la circulation dans le cycle HP d'un débit masse de 1,4 g par seconde supérieur à celui du cycle BP qui est de 1 g par seconde. Voici le tracé de ce cycle dans le diagramme des frigoristes. Vous l'étudierez dans une exploration dirigée. D'autres variantes de ce cycle peuvent être utilisées, comme le cycle à injection partielle et le cycle à évaporateur à moyenne pression. Dans le cycle à injection partielle, seule la phase vapeur issue du détendeur haute pression est mélangée à la vapeur sortant du compresseur basse pression. Les performances de ce cycle sont un peu moins bonnes que celles du précédent, COP égale à 2,33, car le travail de compression est légèrement supérieur, la vapeur MP étant moins refroidie avant recompression.